Mais premièrement, on va parler santé autochtone aujourd'hui avec Philippe Meilleur, qui est le directeur de Montréal Autochtone, membre du regroupement aussi des centres d'amitié autochtone du Québec. Et on vient d'ouvrir une nouvelle clinique de santé familiale avec Montréal Autochtone, n'est-ce pas? Quoi, Philippe?
Oui, oui, ça va. Ouais, on a inauguré notre clinique très attendue, clinique familiale. Donc, on a travaillé un bon 8-9 ans pour arriver à ce point-là, mais c'est maintenant en fait.
Moi, Philippe, d'entrée de jeu, j'ai quand même une question peut-être un peu... tu vas comprendre le sens de ma question. Dans cette année, il y a le centre de santé Joe Jagi qui est ouvert au complexe de santé Reine-Élisabeth. Il y a aussi une clinique médicale pour Inuit qui est ouverte dans Verdun, juste avant les fêtes. Et là, vous, à Montréal Autochtone, vous venez d'ouvrir une clinique de santé familiale. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'une troisième clinique autochtone à Montréal?
Bien, je pense qu'il faut comprendre l'émergence du financement puis de tous ces projets-là, comment qui ont été menés, en fait. Il n'y a pas nécessairement eu une coordination séquentielle à dire on en ouvre une, on en ouvre une deuxième, puis Montréal Autochtone prend acte de tout ça. Mm-hmm. Montréal Autochtone avait l'objectif, comme tous les centres d'amitié, de développer un programme d'accès santé similaire à ce qui a été fait à Val-d'Or. Donc, la clinique à Val-d'Or a maintenant 15 ans, c'est rendu quasiment un CLSC.
La clinique Minowé.
Qui était nommé Minoué et maintenant est rendu le programme Pimaziwin, si je ne me trompe pas.
Mieux vivre en Anishinaabe.
Donc, les centres d'amitié ont une longue historique, en fait, de croire que intégrer le système de santé dans nos services, c'est le meilleur pont pour rendre les services de première ligne plus accessibles. Donc, Montréal Autochtone avait affiché son désir de faire ce genre d'initiative-là depuis 2015. On venait juste d'être fondé, puis on s'est dit, ben nous, on pense qu'un jour, on va devoir faire ça pour avoir une clinique spécifique aux enfants, spécifique aux jeunes, spécifique aux familles aussi. Ils ont des besoins particuliers, ces clientèles-là. Puis ça a toujours été notre vision que faut pas mettre tous les besoins des Autochtones dans un même pot et se dire, un organisme va couvrir tous ces besoins-là. Mmh. C'est pas vrai. C'est une spécialisation de servir de la clientèle familiale et enfance. Fait que ça, c'est première réponse. Deuxièmement, on a demandé là, des rencontres avec le système de santé, ça fait trois reprises qu'on essaie de monter un projet comme celui-là et que ça allait échouer. Ça avait échoué parce que le système de santé ne reconnaissait pas le défi de mobiliser les Autochtones vers les services. Puis quand on leur demandait combien vous n'avez, là, en fait, dans vos CLSC à Montréal, etc., ils nous disaient, ben zéro, on n'a pas de statistiques sur ça. C'était pas sur leur radar. Puis évidemment, le tragique décès de Joyce Echaquan a forcé la main du gouvernement à avoir une réponse. C'est comme d'habitude, malheureusement, dans beaucoup d'instances, là, on voit bien, il y a un accident tragique d'un piéton à Montréal, on va mettre un stop sur un coin de rue, finalement, puis là, c'est un peu la même affaire. Hein. Il y a une réaction de créer un fonds. Et ce fonds-là était très large, en fait. C'est un fonds de 27 millions qui avait été lancé en 2021, si je ne me trompe pas. Et ça donnait de l'argent au CIUS pour créer des solutions culturellement sécurisantes. Mm-hmm. Ici, à Montréal, c'était 4,7 millions. Et on avait déjà une table locale avec tous les organismes autochtones. Et on se départageait un peu nos rôles, puis comment qu'on voulait faire avancer la relation avec le système de santé. Puis ultimement, on a dit au système de santé, bien, on veut s'approprier tout cet argent-là, parce que ça devrait passer par nous pour créer des services, comme dans les centres d'amitié, on a fait un peu partout dans la province. Et donc là, il y avait un processus interne qui s'est fait pour l'octroi de ce financement-là, un comité indépendant, des choses comme ça, avec certains critères, et plusieurs organisations pouvaient postuler avec leurs projets. Ces projets-là pouvaient être plus en services sociaux, plus en santé médicale, en santé traditionnelle. C'était tout simplement des services culturels de bien-être qui pouvaient être financés, et les hôpitaux pouvaient aussi dire, bien, on aimerait ça en garder un peu pour des enfants. C'est ce qui a été fait aussi un peu partout dans la province. Dans certains cas, il y a des CIUS qui ont dit, ben nous autres, on garde une grosse partie de cette enveloppe-là puis on vous laisse un petit 200 000 au centre d'amitié. C'est pas assez pour nécessairement créer un service, faire tout ça. Mm-hmm. Fait qu'il y a eu, il y a eu l'octroi de quelques projets. Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes initiatives qui ont été créées. Mais tu sais, c'est un peu dans le processus de toi de subvention, on ne va pas juste dire, OK, ben Joe Joggy, vous voulez faire quelque chose, nous, on abandonne nos projets. On crée chacun nos initiatives, puis ensuite, on se coordonne pour s'assurer qu'il y a une bonne utilisation des services. Puis la logique aussi, c'est que Joe Joggy s'est affiché comme étant plus un service d'urgence. Donc, ce n'est pas nécessairement un accompagnement médical comme nous, on offre. Ainsi que le service pour une clinique Inuit, ben c'est seulement pour les Inuits. Nous, on est sans égard à la nation d'appartenance. Donc, une personne Inuit qui choisit notre clinique peut, tout comme une personne Ojibwe ou Atikamekw.
Les services qui sont offerts à la clientèle de Montréal autochtone sont offerts tant pour les personnes autochtones que non autochtones. Et pour avoir moi-même participé à plusieurs activités d'artisanat, il y a beaucoup de gens qui sont en reconnexion ou ils pensent qu'ils sont métis de l'Est. Est-ce que les gens non autochtones ou autodéclarés peuvent aussi se prévaloir de ces services en santé-là?
Non. Donc, on est en train de faire ce changement-là à la demande de nos membres puis à l'observation de notre équipe. Donc, il faut se rappeler que les centres d'amitié, on a une longue historique de peu de ressources, premièrement. Donc, commencer à faire l'évaluation de l'identité d'une personne, là, comme vous savez, à Montréal, on a des gens qui sont 60s scoop, déconnectés, du monde connecté, mais qui ne connaissent pas leur culture, du monde qui ont leur paperasse, il y en a du monde qui n'ont pas leur paperasse. Et donc, la mission des centres d'amitié pendant les 50 dernières années, c'est, garde, on oublie ça, les cartes de statut, là, qu'est-ce que tu as de besoin? Okay? Fait qu'on n'est pas en train de faire une évaluation comme qu'on aurait quand on rentre à un conseil de bande où là, on dit, la première affaire qu'on dit, c'est, es-tu membre de cette bande-là? Parce que si tu ne l'es pas, ça se peut qu'on ne te serve pas. Donc, il y a quand même une distinction importante à apporter dans le milieu urbain. Par contre, comme plusieurs autres personnes autochtones, j'ai constaté et d'autres personnes ont constaté qu'on a aussi des usurpateurs d'identité. Et notre première réaction à tout ça, c'est de se dire, OK, maintenant, on va avoir des bylaws, donc des règlements généraux qui, un, vont dire, si tu veux faire partie de la gouvernance de ce centre, tu vas devoir prouver que tu es autochtone. Et au début, ça était déjà là, c'est un challenge, là, à se dire, est-ce qu'on va avoir la capacité de faire ça? Puis qu'est-ce qui arrive pour tous les gens avec des identités floues? Est-ce qu'ils sont exclus? Puis notre position, c'est, ben, si tu veux devenir gouvernant, donc membre qui va élire des administrateurs, devenir administrateur, ben, si tu vas me donner ton information sur ton passé criminel parce que je fais une évaluation, tout ça, ben, tu peux faire la même affaire pour ton identité autochtone, s'assurer qu'on a les bonnes personnes en gouvernance. Et pour la clinique, c'est le premier service qu'on a restreint aussi en disant, ben, l'enjeu ici, c'est qu'il y a une loi derrière l'accès à un médecin. Si je t'inscris à un médecin, ensuite, c'est ton droit d'avoir ce médecin-là. Je ne peux pas juste dire, ah, finalement, on a appris que tu n'es pas vraiment autochtone, je te désinscris de la liste de médecins. Donc, notre CA s'est dit, OK, c'est le temps qu'on aussi on mette en place une politique plus rigoureuse sur l'accès à certains services et progressivement, on va commencer à implanter ça dans d'autres services. Notre défi, c'est encore une fois une question de capacité, parce que c'est bien beau de dire ça, là, mais c'est un gros processus quand même pour l'admissibilité de service. Il faut évaluer si c'est crédible, la proposition de la personne, si elle a sa paperasse. Pour certains, c'est facile. Tu as ta carte de statut, tu vas nous la montrer, on va te faire signer un formulaire. Merci, bonsoir. Mais pour plusieurs autres personnes, ce n'est pas aussi clair que ça. Et beaucoup de personnes autochtones, ben, ils perdent leurs documents. Fait qu'on veut s'assurer que quand même des services essentiels sont livrés à certaines personnes. Et pour les services culturels, on est en train de tranquillement restreindre aussi puis évaluer jusqu'à où on va permettre l'accès. Mais je prends l'exemple qu'à Montréal, ben, on a beaucoup de familles mixtes. On a une femme crie, puis son chum, c'est un Haïtien. Si c'est son père qui s'occupe de l'enfant, puis dit, ben moi, je veux inscrire mon enfant au camp de jour, ben il faut qu'on ait une approche inclusive pour des parents allochtones qui s'occupent d'enfants autochtones. Fait qu'il y a toutes sortes de réflexions pour s'assurer qu'on maintient nos valeurs de centre d'amitié, mais qu'on s'assure que les ressources qu'on a créées s'en vont aux bonnes personnes et sont gouvernées par les bonnes personnes. Mais cette année, c'est l'année qu'on implante toute cette politique-là.
Pour revenir un peu à la distinction, justement, on parle qu'il y a plusieurs maintenant cliniques autochtones. C'est un peu la même chose pour laquelle Montréal autochtone a été créé. Il y avait déjà un centre d'amitié autochtone à Montréal, mais qui avait une clientèle spécifique qui répondait peu aux besoins, si je comprends bien le contexte, des familles. Donc, on a décidé de créer un nouveau centre d'amitié autochtone, puis il y a plusieurs organisations qui offrent des services comme ça spécifiques à une clientèle itinérante, à une clientèle de femmes ou des choses comme ça. Donc, la volonté de créer Montréal autochtone, c'est un c'est un peu comme ça que ça s'est passé, si je ne me trompe pas, Philippe, vers 2014?
Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, tu sais, il y a eu un CA intérimaire qui a été créé, il y a eu des événements communautaires qui ont été faits, puis tranquillement, la mobilisation de la communauté qui n'était pas desservie s'est appropriée justement cette mission de créer le centre. Ils m'ont embauché et j'ai embauché ensuite le reste de l'équipe. Mais essentiellement, ce qu'on a pu constater, c'est que des services, tu sais, si on regarde nos services, là, par exemple, tout ce qui est en enfance, ben, il n'y avait pas de camp de jour autochtone à Montréal. Et organiser un camp de jour autochtone, c'est pas une mince affaire, honnêtement.
Non,
Fait
puis
que...
pour l'avoir vécu à Val-d'Or, moi, c'est qu'est-ce qui m'a permis de garder un contact avec un aspect de moi-même, de mon identité autochtone. Parce qu'il n'y avait pas de... J'ai participé au camp de jour du Centre d'amitié autochtone, puis si, c'est assez essentiel quand on est dans un milieu scolaire non autochtone, dans des institutions non autochtones, un milieu de vie non autochtone, de pouvoir avoir accès au moins à quelque part dans l'année à ce genre d'activité-là.
Exactement. Puis là, nous, on a parti d'un camp de jour, puis maintenant, on a une programmation annuelle, continue, tous les fins de semaine, il y a l'équivalent d'un camp de jour ou des activités pour enfants. Et ça mélange du loisir, de l'apprentissage, puis de l'accès à la culture aussi. Et là, on a des enfants de toutes sortes de profils. On va avoir des enfants Inuit, on va avoir des enfants Blackfoot, on va avoir des enfants métis de justement de l'Ouest. Tu sais, nous, on a quand même une bonne population d'ailleurs de métis de l'Ouest, là, tu sais, faut le savoir. Puis de voir tous ces différents profils-là avec différents types de situations socio-économiques aussi. Nous, notre but, c'est de pas juste faire un service qui est seulement au niveau de la réponse à la pauvreté, c'est aussi d'offrir des services à des familles peut-être classe moyenne, mais qui sont déconnectées de la communauté, puis leurs enfants n'ont pas accès à de la culture. Fait qu'il y a toutes sortes de nuances que nous, on se développe comme expertise, puis tu sais, ça se reflète dans des services d'accompagnement éducatif. On est capable de coordonner toutes sortes de stratégies avec les écoles, que ce n'est pas l'expertise des autres centres qui, eux, leur clientèle, c'est en itinérance. Ce n'est pas les mêmes besoins, ça ne sera pas les mêmes partenaires, ça ne sera pas même les mêmes enjeux à régler dans le système public. Donc, au niveau de l'éducation primaire, secondaire à Montréal, qui travaille sur ça? Ben, c'est nous, là, actuellement. Il y a seulement nous qui approchons les commissions scolaires sur ces enjeux-là. Fait que c'est vraiment une question de logique de se dire, est-ce une expertise là, des services à certaines clientèles? Il faut que des organisations se penchent sur ça, puis on peut tout faire.
Donc, cette clinique-là, elle est vraiment spécifiquement pour les services à la famille. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Comme moi, personnellement, je suis une femme célibataire sans enfant. Ces services-là ne seraient pas vraiment appropriés pour moi. Ça serait plutôt, je devrais aller plutôt vers le centre Joe Jaggi à ce moment-là.
Non. En fait, c'est applicable. Tu sais, on l'a nommé une clinique familiale parce qu'on veut vraiment que le message soit envoyé que c'est quand même l'accompagnement à long terme, médecin de famille, avec certaines spécialisations qui vont être un peu plus dédiées à l'accompagnement de parents et une clientèle en enfance. Par contre, tous les groupes d'âge, essentiellement c'est autochtone, tu peux demander un accès. Puis ensuite, notre équipe va évaluer c'est quoi la situation que tu peux avoir, puis si on est vraiment capable de te desservir, il y a des grands malades qu'on n'est peut-être pas capable d'accompagner parce qu'ils sont dans une situation d'un cancer avancé, des choses comme ça, tandis qu'on a des gens qui ont déjà un médecin de famille, mais ils ne l'aiment pas, puis c'est peut-être pas la priorité de desservir cette personne-là si elle a facilement accès à un médecin, puis il faut faire un peu de jugement sur le triage. Ceci dit, tu es éligible, n'importe, je suis éligible. Tout le monde qui est autochtone et qui a sa preuve d'autochtonie, là, en fait, de son identité autochtone, est éligible. Et les services offerts, ben, c'est la première ligne. Fait que c'est carrément, donc, soit ponctuel ou un accompagnement d'un médecin. Fait que si tu as un petit besoin ponctuel, c'est possible de faire un rendez-vous avec notre médecin. Si tu veux un accompagnement, un suivi d'un médecin, même chose. Et là, qu'est-ce qu'on offre comme service de base? C'est que toute la base est faite sous notre toit. Donc, examen médical. Ensuite, si on a des prélèvements à faire, tu n'as pas besoin d'être envoyé à un CLSC. On va faire ça sur place. On ne veut pas de barrière logistique. Et les suivis avec une infirmière. Fait que, admettons qu'on décèle qu'il y a de la haute pression, il y a des suivis de diabète à faire. Tout ça est fait sous un même toit avec notre très petite équipe médicale. Et ensuite, ben, mettons que tu veux parler à un aîné, on a deux gardiens de savoir pour avoir des discussions avec des gens sur différents niveaux, que ce soit état de santé, leur situation personnelle, ou des fois se découvrir un petit peu aussi sur certaines traditions. Ça est fait sur un même toit, ainsi que des services de liaison deuxième ligne. Parce que la première ligne, c'est la base, mais si tu as des tests à faire avec des spécialistes au CHUM, au CUSUM, dans d'autres milieux, pour certaines personnes, ils vont dire, gars, je suis correct, je vais m'organiser, ça va. Mais on a aussi un service de liaison puis de navigation santé pour accompagner les gens quand ils disent, ben moi, ça m'intimide d'aller là-bas, ou je suis pas trop sûr dans quoi je m'embarque. Fait qu'on a un accompagnement ou une coordination avec le système de santé aussi. Grosso modo, c'est ça.
C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça clarifie un peu pour qui ces services-là sont. On va faire une courte pause musicale. On va revenir tout de suite après Philippe Meilleur de Montréal Autochtone pour nous parler de la clinique de santé familiale.
On est de retour avec Philippe Meilleur de Montréal Autochtone. On parlait justement des services. Moi, j'ai une petite question qui m'a popé en tête quand je t'entendais décrire tous ces services-là, Philippe. Montréal, c'est un grand territoire. J'imagine que la clientèle de Montréal Autochtone peut même aller jusque dans les banlieues. Comment on fait pour desservir un aussi vaste territoire, puis avec des réalités de personnes qui vont être anglophones, francophones, qui vont venir de banlieues ou de quartiers plus centraux à Montréal. Comment ça se reflète dans les services médicaux puis dans la mission de Montréal Autochtone?
Je ne vous le cacherai pas, c'est le plus gros casse-tête de ma vie, puis celle de mon équipe, évidemment, de réussir à arrimer toutes ces choses-là. Fait que je vais répondre en deux temps. Fait que premier temps, c'est la dysfonction du système public pour faire un projet avec nous. Donc, nous, on se retrouve. En effet, s'il y a des gens de Châteauguay, il y a des gens de Brossard, il y a des gens à Laval, il y a du monde de Oka qui descendent jusqu'à nos services dans certains cas, et évidemment, partout ici à Montréal. Et le défi au niveau du système de santé, c'est qu'ils ont fragmenté les responsabilités des CIUS par des territoires. Fait que nous, on est dans le territoire du CIUS Centre-Sud, mais on est comme obligé de travailler avec eux pour la base d'un service. Mais là, le défi qu'on met au système de public, c'est ouais, ben nous, nos gens sont un peu partout, puis même en dehors de vos territoires de Montréal. Fait que si on doit coordonner avec les services locaux, admettons qu'il y a une mère qu'elle, elle ne peut pas se déplacer à la clinique toutes les fois, puis il y a des services à domicile qui doivent être faits. Là, il faut coordonner avec un CIUS local. Fait que notre équipe va travailler avec ce CIUS-là, mais ça veut dire établir une relation. Là, c'est comment qu'on assure la sécurisation culturelle dans ce cas-là? C'est la responsabilité du CIUS. Fait que je suis aussi sur un comité de formation qu'on a déjà déployé d'un certain temps, où c'est l'UCAT avec son programme de formation en sécurisation culturelle qui offre des disponibilités de formation à l'année longue. Et là, on encourage le CIUS à dire, ben, on voit des corridors là, avec certaines de vos institutions qu'on travaille plus souvent avec. Assurez-vous que le personnel en lien avec notre clientèle prenne des formations. Mais on va aussi donner du feedback, puis on va aussi accompagner des membres quand ils sentent que ce n'est pas culturellement sécurisant. Et on va les accompagner soit à faire des plaintes ou bien donner du feedback au département référent. Mais c'est énormément de travail faire ça. Aucun doute qu'on a besoin d'un appui du système public et qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais c'est comme ça qu'on va le travailler. Puis on pense que c'est la meilleure méthode parce que juste une formation, ça ne te donne pas une impression du service rendu. Hein. Faut qu'il y ait un feedback loop.
Ouais, puis des rapports comme le rapport de la coroner Guyane Kamel sur la mort de Joyce Echaquan ou d'autres littératie scientifiques viennent nous dire que juste une étude, souvent, des fois, ça peut même avoir, juste une formation, ça peut même, des fois, avoir un effet contraire à qu'est-ce qu'on veut, là.
Absolument, absolument. Puis notre logique, puis on l'a vu dans certaines recherches qu'on a participées, c'est du développement d'expertise. Il faut que le personnel allochtone se développe une expertise en service aux Autochtones. On ne peut pas tout faire dans notre clinique. Et quand on voit que des infirmières sont habituées de travailler, admettons, avec des femmes autochtones qui arrivent du Nord avec des grossesses à risque, sont à l'aise à parler avec eux autres. Ils différencient les différents profils de, par exemple, une femme qui a des gros enjeux de dépendance, d'itinérance. Et ces réactions d'une femme qui fait juste passer un très mauvais quart d'heure avec une grossesse à risque, fait qu'ils n'hésitent pas à bien servir. Mais on a vu que dès que ces mêmes femmes autochtones-là vont dans d'autres départements du même hôpital, bien, il n'y a pas la même aisance. Fait qu'il y a une réduction de l'approche. Puis à la place que l'infirmière pose des questions, entre en contact avec la femme, elle rentre, puis elle fait juste à regarder les documents médicaux, puis merci, bonsoir, j'ai fait ma job. Puis ça, c'est pas ce qu'on veut voir dans le réseau de la santé à Montréal. Mais avec une comme la nôtre, où on donne du feedback, puis qu'on informe, puis qu'on travaille en collaboration, on pense qu'on va continuer à développer l'expertise. Puis je résume en 2 secondes le défi logistique. Ben, côté de l'accès, au moins Montréal Autochtone est au métro Lionel-Groulx.
OK.
Deux métros, pas mal accessibles. Les lignes d'autobus de la rive sud aussi arrivent directement à ce même niveau-là. Donc, notre plus gros défi, c'est le stationnement. Puis, je vais vous avouer, je suis un peu déçu parce qu'on a demandé à l'arrondissement sud-ouest de nous réserver des places de stationnement. Puis, c'est un peu encore en cours. Ça va probablement même pas être des places de stationnement réservées sur la rue, mais peut-être juste comme des petits arrangements qu'on va pouvoir faire. Ça, c'est difficile quand même pour les gens qui se déplacent en voiture. Ça, je l'avoue.
La réception du système de santé par rapport justement à cette rétroaction-là, le fait de faire des références, etc., est-ce qu'il y a une bonne réception de ce palier de services que Montréal Autochtone offre?
Ben, nos partenaires sont très impliqués au niveau du GMFU de Verdun. Le CIUS Centre-Sud a quand même offert certains leaderships pour faire les ententes, des choses comme ça. Ce qu'on constate, c'est que, regarde, c'est un des plus gros appareils de services publics au Québec. À Montréal, c'est des milliers d'employés. On ne peut pas s'attendre que chaque interaction va être bien faite. On le sait, là, dans nos propres organisations, il y a du monde qui font du bon travail, puis qui ont du savoir-être, puis il y a du monde qui font du mauvais travail et qui n'ont pas de savoir-être. Je pense qu'il faut être réaliste qu'on ne pourra pas complètement assurer la sécurisation des Autochtones dans tous les milieux, mais on a des rencontres régulières, toutes les organisations autochtones et toutes les institutions de santé depuis 5 ans, et l'agenda est bien tracé. On a un plan d'action pour les 5 prochaines années aussi. Et moi, je l'ai clairement dit, il faut qu'au moins 5 000 personnes autochtones, au minimum, aient accès à un service équivalent d'un médecin de première ligne qui soit en situation d'itinérance ou non. Parce que sans ça, on sait comment que le système est fait, tu n'as pas accès à rien d'autre. Fait que ça, c'est dans nos premiers targets à essayer d'évaluer puis de vérifier. Puis par la suite, bien, il y aura toutes sortes de discussions, hein, avec ce service-là. Ce qu'on espère surtout, c'est que les personnes restent en poste. Parce que le plus gros problème qu'on voit dans le service public, il y a des chaises musicales, puis on recommence à zéro. Ça, c'est vraiment difficile.
Les membres de l'équipe à la clinique de santé familiale à Montréal autochtone, est-ce que ce sont des non-autochtones ou ce sont des autochtones?
Bien, justement, c'est un gros défi, en fait. Simplement, travailler avec le service public, il y a des conventions, hein, syndicales. Fait que, admettons qu'on voulait être dans le comité de sélection pour l'infirmière ou créer un poste spécial, mais ça, c'était pas possible parce que la convention ne permettait pas. On a quand même donné nos critères, on a quand même participé à l'évaluation, puis elle travaille chez nous. On est capable de superviser la pratique un peu, mais c'est plus compliqué qu'on pense. Et au niveau des médecins, c'est des travailleurs autonomes. C'est leur mode de rémunération. On a eu en fait des possibilités de médecins autochtones, mais la rémunération, ben, on paye des taxes. C'est pas des per diem comme aller dans le Grand Nord. C'est pas la même rémunération. Fait que c'est un défi, ça aussi, là, de trouver un arrangement des conditions de travail qui incite les médecins ou infirmières autochtones à vouloir travailler chez nous. Et c'est pas tout accompli, là, ce niveau-là. Fait qu'on a essayé, ça n'a pas fonctionné, donc c'est des allochtones.
Philippe Meilleur, directeur de services autochtones, c'est malheureusement la fin. C'était très intéressant. On souhaite beaucoup de succès à ce nouveau service-là. Niawa.
Merci beaucoup. Niawa.
Au revoir. Au revoir.